France Musique.
Bonjour Nicolas Lafitte et à lundi.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous. Ce matin encore, Fabrication Maison vous entraîne, chers auditeurs matinaux, à la découverte des coulisses de la musique à Radio France. Ce matin, dans le portrait, rencontre avec un compositeur qui vient de publier dans la collection Signature Radio France son dernier opus, Régis Boulard. Le reportage de Baptiste Etchegaray vous fera découvrir les sons de l'exposition La Fiac hors les murs qui se tient à la Maison de la Radio jusqu'au mois de décembre. Puis à 8h20, ce sera la chronique de Marie Fauché. À 8h30, le monde fabuleux des archives de Jean-Yves Patt. À 8h45, votre souvenir musical dans Parlez-moi de musique. Et enfin, à 8h50, notre feuilleton Question de cœur avec Sophie Janin. Vous êtes prêts ? Alors, on y va.
France Musique.
Bonjour Régis Boulard.
Bonjour.
Alors Régis Boulard, vous venez de sortir votre quatrième opus dans la collection Signature, qui est une collection Radio France, qui s'appelle La Machine Couchée.
Oui.
Qu'est-ce que vous lui avez fait à cette pauvre machine ?
J'en avais marre.
Vous en aviez marre des machines ?
Celle-là, oui.
Celle-là, c'est laquelle ? C'est la vôtre ?
Oui, c'est, on a chacun la nôtre, je crois. C'est tout ce qui ne marche plus et qui continue quand même. Et donc, il y a un moment, il faut arrêter, quoi.
Alors, vous l'avez couché avec la complicité d'un certain nombre de musiciens. Il y a de la guitare basse, il y a du saxophone, il y a même un mélotron.
Oui.
Un mélotron, qu'est-ce que c'est ?
Un mélotron, c'est, on va dire, l'ancêtre de l'échantillonneur. Mmh. C'est-à-dire que chaque touche déclenche une bande magnétique qui est lue.
Il y a des voix, il y a de la batterie.
Ouais.
Ce n'est pas cette machine couchée que l'on va entendre ce matin, mais plutôt vos choix musicaux, Régis Boulard. Et le premier, c'est un extrait de Noces de Stravinsky.
Oh,
как тебе будет минус, не так сколько ты плачешь, как тебе будет минус, не так тебе будет жалости.
Nous écoutions le début de Noce d'Igor Stravinsky dans l'interprétation du chœur et de l'orchestre philharmonique tchèque que dirige Karel Anserl. C'est votre premier choix, Régis Boulard. Quel est le lien que vous avez avec cette pièce de musique dont la pulsation est, voilà. est quand même intense?
Bah voilà, la pulsation.
Et ben voilà.
enfin, c'est pas tellement la pulsation, c'est le placement rythmique et la liberté rythmique. Ça m'a décoiffé totalement quand j'ai découvert ça. Et en fait, quand j'étais gamin, en sixième, j'ai un prof de musique au collège qui m'a fait découvrir le sacre.
Le Sacre du Printemps, voilà, vous voulez dire, d'Igor Stravinsky,
le même. Voilà, qui m'avait mis la tête à l'envers, puis j'ai oublié après. Puis ado, j'ai découvert la musique de Magmat, Christian Vander, qui se réfère souvent à Stravinsky. Et de là, je suis repassé aux Noces. Bah voilà, depuis, j'écoute ça tout le temps, en fait. Donc,
Ce qui est très beau, c'est aussi le mariage entre la pulsation de l'orchestre et la façon dont il traite les voix.
Totalement. Et puis pour moi, voix et travail rythmique...
vont ensemble.
C'est l'essence.
Alors, on reste dans le domaine des voix avec une pièce de Thomas Tallis, Spem in Allium, votre deuxième choix. Musique totalement céleste que Spem, ce Spem in Allium de Thomas Tallis que chantaient les King Singers, Régis Boulard.
Ouais.
Ouais. Ça veut dire quoi déjà, Spem in Allium?
En gros, hein, ça veut dire l'espoir en l'autre. Donc l'autre sous-entendu Dieu, mais bon, on peut aussi le lire autrement, quoi.
C'est ce que j'imagine que vous faites.
Ouais, c'est mon côté résolument optimiste. Qui est très forcé en fait, un optimisme très forcé. Donc voilà, mais ça me retourne.
À chaque fois, cette musique.
Ouais.
Celle-là, vous l'avez découverte comment ?
Bah, écoutez, je l'ai découverte à un moment pas très facile de ma vie où j'avais encore un vrai métier. J'étais graphiste dans une imprimerie et donc j'étais sur votre station, sur France Musique. C'était ma survie, hein, voilà. Et voilà, Spem in Allium est passé. Il a fallu que j'aille m'enfermer dans mon laboratoire de développement de photos.
Pour pleurer tranquille.
Ouais. Il m'a fallu une demi-heure pour m'en remettre. Voilà, et puis après, ce que j'aime là-dedans, il y a un côté très paradoxal, parce que la musique est incroyable, et à la fois, Thalys, tout ce qu'il voulait, c'est se tirer la bourre avec Monteverdi, qui avait fait un motet à 36 voix, et l'autre, il lui en a mis un de 40 voix dans les dents. Voilà, quoi, et j'aime ça, en fait, j'aime ce paradoxe-là.
La compétition
C'est-à-dire quelque chose de très trivial, et à l'autre bout, nous, on entend juste quelque chose de céleste, et finalement, leur recette de cuisine, on s'en fout un peu, quoi, c'est le résultat qui compte, j'aime bien ça.
Vous devez connaître ça, vous, en compositeur que vous êtes.
Ouais, alors je suis compositeur, bon, je ne lis ni n'écris la musique, mais bon, je compose quand même. Hein, mais ouais, il n'y a que le résultat qui compte, ouais, clairement. Ouais. Et ça fait pas longtemps que j'assume cette idée-là, en fait.
Votre choix suivant, Régis Boulard, c'est la première arabesque de Debussy. On vous propose l'interprétation d'Aldo Ciccolini.
Super. Thank you.
La première arabesque de Claude Debussy, dans l'interprétation d'Aldo Ciccolini, c'est votre troisième choix, Régis Boulard. Alors, c'est quoi? C'est l'amour du piano? C'est ces petites descentes chromatiques là qui vous donnent des frissons?
Alors, oui, oui. Et puis, c'est comment dire, l'exemple le plus prégnant de ce que la musique peut avoir d'intime. En fait, pour moi, c'est l'intimité absolue, cette musique-là. C'est, elle peut être jouée en concert, mais on a l'impression que c'est pour chacun, quoi. Mmh. Et je connais pas d'autres endroits comme ça, ou peu. Voilà. Et puis, alors, par rapport à la musique que j'écoute plus, on sait peu que Debussy a énormément, c'est même pas influencé, enfin, influencé tous les musiciens qui inventaient le bebop. Et donc, on lui doit beaucoup, même là, quoi. Même dans des chants qu'on n'imagine pas. Et puis, bon, j'avais pensé vous amener la mer parce que depuis que je suis gamin, j'en peux plus, quoi. Mais bon, la première arabesque, là, c'est, je vous dis, c'est vraiment un truc avec l'intime qui est. C'est d'une beauté sans nom, quoi. Enfin, voilà.
La mer, pourquoi? Parce que vous vivez en Bretagne?
Bon, alors, j'ai pas fait exprès. Papa est normand, j'ai choisi mon camp. oui, enfin, bon, j'ai besoin de l'eau qui bouge, ouais, ça, c'est sûr, ouais. Et non, et puis parce que j'étais complètement emporté par cette musique quand j'ai découvert. Pareil au collège, hein, le même prof de musique, hein, que je bénis.
Comme quoi?
Ouais, ouais, ouais.
Et, c'est important, hein, ces années-là.
Ouais, mais carrément, ouais, carrément. Ouais. Mais sauf qu'à l'époque, j'osais pas trop le dire.
Et non, ça faisait pas parmi les copains des Claude Debussy.
Bien sûr.
Et dans La Machine Couchée, qui est le disque que vous venez de publier aux éditions Signature, on a l'impression qu'il y a de la matière. C'est une matière lourde.
Ouais.
C'est pas une matière comme ça, transparente.
Il y en a aussi. Hein, c'est un disque qui a un point de départ, un point d'arrivée. Et pour la première fois de ma vie, je vais vers le soleil, quoi. Volontairement, avec ce disque-là. Et le soleil et l'espoir, quoi. Donc voilà. Et entre autres, le dernier morceau, hein, qui est avec une chanteuse magnifique. Maria Laura Baccarini, voilà quoi.
C'est le soleil de l'Italie.
C'est son soleil à elle, hein, parce que c'est quelque chose.
Alors on écoute votre quatrième choix.
Thank you.
Un extrait de Tehillim de Steve Reich dans l'interprétation du Schönberg Ensemble du groupe The Hag, les percussionnistes, tous dirigés par Reinbert de Loup. Alors c'est un, vous me l'avez dit pendant que nous écoutions cette musique, c'est aussi un moment important dans votre vie de musicien cette fois-ci.
Ah totalement, ouais. Ouais, ça m'a libéré beaucoup. Je travaillais à m'affranchir des barres de mesure en fait, c'est-à-dire qu'on compte la musique en 4 temps, 5 temps, 7 temps, etc. Et moi je voulais me balader un peu là-dedans, comme deux de mes héros batteurs, Keith Moon, le batteur des Who, et Christian Vander, batteur de Magma, qui a pris l'habitude de finir ses mesures là où on ne l'attend pas. Et ça libère énormément de discours, et là d'un seul coup j'ai découvert ça, et puis j'ai vu qu'on pouvait compter la musique en 1, c'est du 1 temps quoi, parce que ça n'a pas de sens de mettre des barres de mesure, il y a une liberté totale, et ça avance tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour le coup, on ne peut pas marquer une pulse, parce que sinon on est à l'envers tout le temps.
Une pulsation, vous voulez dire ?
Ouais. Et la pulsation, pour moi, ça devient presque un problème. Et je préfère travailler sur des cellules plus longues, donc sur du rythme, et pas sur de la pulsation, qui nous enferme, alors que le rythme nous libère, je trouve.
Et puis là aussi, Régis Boulard, il y a des voix.
Eh oui, voix percussion à la base. Des voix qui nous disent louez-le avec des cymbales, louez-le avec des tambours. Donc,
qui vous incite à faire de la musique.
Bah ouais.
Ou à en écouter. Et donc on va m'en écouter, on écoute du jazz, parce que finalement le jazz c'est aussi un peu votre univers.
C'est une bonne partie de mon univers, ouais. Même si j'y traîne plus trop maintenant, mais ouais, bien sûr.
Ça l'a été.
Ouais.
Ça, c'est une totale surprise pour moi. Je découvre Régis Boulard, cette version du premier prélude du premier livre de Jean-Sébastien Bach, transposé en ré majeur par monsieur Ornette Coleman.
Ouais.
Et un orchestre absolument fou, le Prime Time.
Ouais, absolument. Oui.
Ça, c'est un télescopage, on croirait du collage.
Sauf qu'il le joue, quoi. Donc, c'est double tempo tout le temps. Il y a vraiment deux tempi différents. Et j'adore. Ça, c'est vraiment des informations que j'aime beaucoup envoyer, moi, comme batteur et compositeur.
Vous appelez information le fait de faire se rencontrer, quoi, un patrimoine et puis la création contemporaine.
Non, là, ce que je voulais dire plus prosaïquement, c'est d'avoir deux tempi qui ne se rejoignent jamais et en parallèle. Et de pouvoir avoir son cerveau qui se balade de l'un à l'autre. Et c'est quelque chose
choisir ou pas.
Ouais, absolument. Ouais. Mmh. J'aime vraiment beaucoup ça. Et quant à quant aux deux univers, on peut dire que Bach, il avait quand même déjà tout plié un peu quand même, hein. Et puis là ça se vérifie encore, hein. On écoute les Beatles et Bach, ça fait mal, hein, quand même, hein. J'espère que les ayants droit touchent un peu.
Pas sûr.
Pas sûr du tout. Ouais.
En tout cas, vous, on vous doit La Machine Couchée, donc un disque qui vient de sortir dans la collection Signature. Merci Régis Boulard.
Merci à vous.
Un extrait du dernier enregistrement réalisé par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le concerto pour violon d'Augusta Reed Thomas, qu'interprète en soliste Frank-Peter Zimmermann. À la tête de l'orchestre, le chef Andrei Borico. C'est un disque Densité 21. Et voici venu le moment du reportage du matin. Bonjour Baptiste Etchegaray.
Bonjour Dominique.
Alors pour la première année, la Maison de la Radio accueille un parcours de la FIAC, donc la Foire Internationale d'Art Contemporain, un parcours hors les murs et sonore, où les auditeurs sont invités à venir tendre leurs oreilles jusqu'au 13 décembre. Baptiste, vous avez été balader votre micro au fil de ces installations.
Oui Dominique, vous l'avez peut-être remarqué, il se passe de drôles de choses en ce moment dans le hall d'entrée de la Maison Ronde, des installations en carton, des sortes de totems, d'alcôves dans lesquelles on peut se glisser, s'asseoir sur des coussins et prendre le temps d'écouter avec des casques, des documentaires, des reportages, la plupart issus des ateliers de la création radiophonique sur France Culture. C'est la commissaire d'exposition Anne-Laure Chamboissier qui a été piocher ses trésors de radio dans les archives et qui a imaginé leur mise en scène, leur mise en forme dans ces habitacles un peu étranges construits par les étudiants de l'école Boulle. Alors ce qui frappe d'abord les visiteurs, c'est devant la maison de la radio, un conteneur noir, on dirait un peu un Algeco d'ailleurs, une grosse boîte noire qui invite à un long voyage de 50 minutes en Europe de l'Est. C'est là que j'ai retrouvé Anne-Laure Chamboissier.
Alors on est devant le conteneur qui se trouve en face de la maison de la radio. Un conteneur tout noir où sont présents devant le conteneur également des photographies qui sont en relation avec l'œuvre qu'on est amené à écouter.
D'ailleurs, c'est ce qui frappe quand on arrive, ces grands visages.
Ces grands visages, oui, effectivement, qui sont des portraits, hein, plus particulièrement de Rome et de Tzigane, puisque la pièce est en référence, en fin de compte, c'est une longue traversée sonore qu'a fait Sunwalk sur les rives du Danube, à la rencontre de ces tziganes et Rome, et plus particulièrement la musique tzigane et Rome. Ben, il nous a semblé important d'avoir comme ça une sorte d'appel visuel aussi, pour les gens qui viendront découvrir ce parcours, puis aussi de découvrir une œuvre qui est une œuvre magnifique. Entre dans le conteneur et c'est une immersion à la fois dans le son et dans l'image à travers cette pièce du collectif Sunwalk. Eux-mêmes ont traversé, ont remonté le Danube, hein, à la rencontre de ces tziganes et de ces roms dont la musique est très, très importante et qui se transmet de génération en génération. Et à la fois, ce que vous pouvez entendre, c'est des sons de différentes natures à partir desquels ils ont recréé, je dirais, une composition qui relève à la fois, là pour l'instant c'est des sons un peu plus abstraits, hein, mais on entend à certains moments des extraits de musique tzigane, à certains moments on entend des paroles. On a ce film également en face, où on retrouve ces portraits qu'on voyait dehors, hein, mais là un film en noir et blanc, hein, avec des visages extrêmement expressifs. Hein.
Et pourquoi vous avez choisi, ou pourquoi Sandwalk a choisi le peuple tzigane ?
Pourquoi ils l'ont choisi ? Parce que c'est toute la question d'une tradition musicale, hein, importante, une tradition musicale qui se transmet quand même de génération en génération. Et puis, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que dans la programmation, dans le choix des pièces que j'ai faites pour la plupart, ce sont des pièces qui sont issues des ateliers de création radiophonique, hein, de France Culture. Mais la radio est un véritable espace de création également. Donc à travers cette programmation, pour moi aussi, c'était une manière de mettre en valeur un peu les richesses parmi les nombreuses archives que j'ai pu découvrir.
Parce que vous êtes une amoureuse du son.
Parce que je suis une amoureuse du son, oui. On est tous complètement submergés par des sons tout le temps, mais on ne sait plus écouter. Et je pense que ce type d'expérience auquel on invite le spectateur, c'est aussi un moment d'écoute aussi pour les gens. C'est de dire, bon, vous asseyez, vous prenez le temps Et voilà, et vous rentrez dans l'univers du son qui va vous inviter à des voyages multiples et divers, parce que le son a aussi cette capacité d'évoquer des images mentales presque.
Ces sons, ces musiques que vous entendez ont été enregistrés dans des villages de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie, Slovaquie, tous ces pays que traversent les Tziganes, les fils du vent. C'est le titre de cette dérive sonore qui rend hommage à l'âme et à la mémoire d'un peuple souvent malmené en Europe. Et c'est assez beau de voir ici, en plein Paris, en pleine journée, dans le tumulte de la vie moderne, un homme prendre le temps de s'arrêter. Il a une demi-heure à perdre avant son train et ouvre la porte du conteneur. Je l'ai trouvé allongé sur un grand pouf, très concentré, immergé à l'écoute de ses fils du vent.
C'est vrai que justement, on le voit aussi dans les regards, il y a une espèce de mélancolie et toujours cette bascule entre la tristesse, sûrement la violence de la vie, et en même temps une espèce de joie fondamentale finalement, d'énergie on va dire, de danse par exemple, qui peut ressortir quoi, entre cette bascule des deux extrêmes qu'il y a dans la musique en général, la tension, la détente et une tension vers la mélancolie, et puis à un moment donné ce dépassement et du coup dans une sorte de joie finalement. Là, c'est cette ambivalence qu'il y a notamment vraiment au cœur de cette musique. Comme on peut le voir dans le jazz aussi et dans la musique classique. Mais d'ailleurs, voilà, moi, la musique classique, je sais que je vais vers la musique où il y a cette tension entre le drame et puis à un moment donné la joie, parce que j'avoue que je ne cherche pas le côté lisse quoi, du concert du Nouvel An, par exemple. Globalement, je déteste, quoi. Je sais que je vais vers toujours des musiques un peu qui vont au trip, quoi.
Avec de l'aspérité.
Voilà, c'est sûr, c'est ça.
Et quand vous allez dans des pays à l'étranger, vous faites attention à ces sons, à ces musiques, ça fait partie du voyage?
Ah oui, bien sûr, ouais, bien sûr, tout à fait. Moi aussi, de temps en temps, j'enregistre avec moi le pratique, les dictaphones, là, je fais des sons comme ça. J'aime bien.
Et après ce reportage, dans quelques minutes, vous entendrez la chronique de Marie Fauché. Je crois qu'elle a été interpellée et très inspirée par ce voyage musical chez les Roms.
Alors Baptiste, une autre œuvre sonore attire l'attention, cette fois-ci à l'intérieur de la maison de la radio, dans ce qu'on appelle ici la nef.
Oui, c'est ce large couloir après le hall d'entrée, où la végétation n'en finit plus de pousser. En ce moment, on y entend La nuit des abeilles de l'artiste Eric Samak. Eric Samak, c'est un chasseur-cueilleur de sons. Il enregistre des sons d'insectes, d'oiseaux, de batraciens, qu'il amplifie pour nous faire prendre conscience des sons qui disparaissent progressivement avec le réchauffement de la planète. En ce moment, on peut croiser des auditeurs de Radio France s'arrêter pour tendre l'oreille, mais aussi des gens de la maison, comme une certaine voix de FIP que vous reconnaîtrez peut-être, celle de Jeanne Villenay, la reine des abeilles.
Il y a des avions ou quoi? Je ferme les yeux hein, quand même.
Mon ami, on est dans une jungle. C'est tropical, non?
Une jungle. Ça, c'est des bruits de jungle. Moi, Jane, tu sais, ça me connaît. Ouais. Oui, mon Tarzan. Ah, quand même. Ça y est, il y a quelques habitants. Attends, c'est tes abeilles? Elles ont une drôle de gueule, quand même, tes abeilles. Elles sont pas passées par le midi, elles ont pris un peu d'accent, je trouve.
Elles sont venues direct à Paris?
Ah, direct.
Au bord de Seine?
Ah ouais, sans transit.
Mais Jeanne,
oui.
Vous ne l'aviez jamais entendu, cette installation sonore? Il y a depuis plusieurs jours.
À ce point-là, non.
Mais parce
non,
que vous n'aviez...
J'ai jamais fait gaffe. Et il faut surtout dire que là, c'est une heure un petit peu cosy, 20 heures passées. Et en général, moi, c'est plutôt en journée où transitent des milliers de personnes, là, à Logan.
Et du coup, on l'entend pas.
Et du coup, on l'entend pas, non. Non, non. Non, je regarde centimètre par centimètre ces plantes qui poussent.
Ces plantes grimpantes.
Parce que ça va vachement vite, quand même. Ouais. C'est impressionnant.
Mais est-ce qu'il vous arrive dans la vie de vous arrêter pour écouter les sons?
Mais que ça, bien sûr. Les sons de la nature. Oui. Mais oui. Voilà, c'est l'automne en ce moment. L'automne est bavard.
Qu'est-ce qu'il dit, l'automne?
Ça vous plaît.
Ah oui, j'aime bien l'automne.
Il cracouille. Je sais pas, moi, il me raconte. Les bruits peuvent même me raconter de la couleur. Enfin, c'est les sons de la nature. Alors ça, c'était pas un corbeau qui croasse, mais une hôtesse qui essaye de rentrer dans son petit cachibis. C'était pas mal,
c'était
comme bruitage.
Génial.
Et finalement, la radio, c'est que ça. On vous dit, tiens, vous entendez tel animal? Ce n'est pas... Écoutez l'animal! Que dalle! C'est une porte qui grince! Mais c'est que ça, la radio! On vous raconte, ne vous laissez pas faire, chers auditeurs. On vous ment! On vous ment!
Bonsoir. Vous travaillez à la maison de la radio?
Non.
Vous entendez quoi?
Les oiseaux. Les oiseaux, mais je viens d'une région où... d'Alsace ou en bord des... J'aime pas ce qui est virtuel concernant la nature, mais bon, pour les Parisiens, il leur faut ça. Non, j'exagère. Je vous cherche un peu.
Oui. Bonsoir.
Bonsoir. Parlez-vous anglais?
A little bit, yes,
ah,
yes,
oh,
I do.
Okay, thank you.
Where are you from?
We're from Sweden.
Yeah.
Ah, okay, Sweden.
Sweden. Oui, la Suède. Okay.
We have birds too, but not this kind of... Bye bye. Bonsoir.
Bonsoir. Et on achève cette déambulation avec cette création sonore très originale et impressionnante qui a été diffusée samedi dernier dans le studio 105, une pièce entièrement réalisée à partir de fragments de sons inédits enregistrés lors des tournages des films de Jean-Luc Godard, des archives de plateaux de cinéma qui n'avaient jamais été exhumées. C'est encore un coup de Soundwalk, ce collectif d'artistes basé entre New York et Berlin, qui mixe, malaxe, indexe les sons pour les sortir de l'oubli. Cette pièce, What We Leave Behind, ce que nous laissons derrière, avait déjà été diffusée sur France Culture dans l'atelier de la création et vous pouvez donc l'écouter en intégralité sur le site internet. Les installations à la Maison de la Radio de ce parcours de la FIAC hors les murs sont, elles, écoutables jusqu'au 13 décembre, Dominique.
Merci Baptiste Etchegaray. Vous revenez quand vous voulez.
Avec plaisir.
Un petit moment supplémentaire dans la nature, offert par Maurice Ravel, avec ses rainettes de L'Enfant et les Sortilèges. C'est la version enregistrée par l'Orchestre National de la RTF, que dirigeait à l'époque Laurine Mazel. La chronique de la Maison Ronde. Avec vous, Marie Fauchet, bonjour.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors, Baptiste Etchegaray vient de nous faire visiter l'exposition La Fiac hors les murs qui se tient ici à la Maison de la Radio. Et vous aussi, Marie, vous l'avez arpentée.
Oui, j'ai parcouru moi aussi les installations proposées à la Maison de la Radio. Chacune des œuvres d'art exposées ici est une expérience sonore. Il y est principalement question de ce que les sons révèlent de notre civilisation et particulièrement de leur portée politique.
Et vous, Marie, vous avez été séduite par l'une d'entre elles.
Oui, c'est l'œuvre qui s'intitule Fils du vent, voyage sonore le long du Danube. Elle nous accueille lorsque on arrive à la Maison de la Radio, un grand conteneur bardé de portraits colorés de tziganes dans lequel vous pouvez vous installer et écouter. Baptiste Etchegaray le présentait tout à l'heure dans son reportage. L'idée, au travers de ce voyage purement sonore le long du Danube, c'est de nous donner à entendre les atmosphères et surtout les musiques qui signent l'identité de chaque village. Ça commence en Ukraine pour aller jusqu'en Autriche, en passant notamment par la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie. Il s'agit à la fois de poésie pure, avec ses sons de la nature et ses voix rocailleuses, mais malgré l'absence de revendication ou même d'énonciation, il en émerge aussi un message. Un message politique sans doute, un message qui questionne en tout cas. Et c'est au fond la musique seule qui nous guide. Avec elle, on approche l'histoire du peuple tzigane et sa place dans cette Europe qu'on croyait sans frontières. De l'âme et de la voix d'un peuple dont il s'agit avec ses musiques. Qui sont ces tziganes qui font battre le cœur de l'Europe centrale? Quel mouvement, quel exode nous donne-t-il à entendre dans leur voix? Virag Okrom, c'est un enregistrement réalisé par Béla Bartok en 1937 dans un village de Roumanie. C'est étonnant à quel point le parcours proposé par la FIAC et France Culture évoque la démarche de Bartok au début du XXe siècle. Bartok et le compositeur Zoltán Kodály ont eux aussi parcouru les villages d'Europe centrale pour collecter des chants populaires. Il faut imaginer que lorsque Bartok et Kodály partent enregistrer ces chants populaires dans la campagne magyare, ils n'ont évidemment pas de GPS, pas
ah
de
oui.
MP3, et encore moins de dispositifs en son immersif, comme c'était le cas du collectif Soundwalk qui expose à la FIAC. Ils sont équipés, Dominique, d'un phonographe de 25 kilos,
ouf,
ouais, qui enregistre sur un rouleau de cire. Voici un petit extrait d'un enregistrement réalisé par Bartok lui-même en 1912. Ça gratte beaucoup, mais c'est très émouvant. Et puis maintenant, la version adaptée par Bartok avec David Oistrakh au violon. La démarche de Bartók était politique, bien sûr, puisqu'il s'agissait, en collectant ses musiques populaires, de mettre en valeur un patrimoine, le mettre en valeur et lui faire une place aux côtés des musiques dites savantes de l'époque. Dans un monde qui allait bientôt s'uniformiser, Bartók a été visionnaire. Et le parcours de la FIAC nous rappelle que ces musiques populaires sont, pour certains peuples, une affaire d'ADN et même une affaire de survie. Allez, sans transition, mais on reste dans le thème. Gilles Appap sera en concert à la Maison de la Radio le 14 novembre. Allez,
génial.
On danse.
Ah oui, quelle ambiance.
Donc c'était Gila Pap and the Transylvanian Mountain Boys qui interprétaient ici ce medley sur des airs traditionnels d'Europe centrale.
Gila Pap a retrouvé donc en concert à la Maison de la Radio le 14 novembre.
Oui, dans le cadre d'ailleurs d'un cycle de concerts dédiés à Bartok et à Beethoven, justement. Et on aura sans doute l'occasion d'en reparler.
Merci Marie Fauché, à la semaine prochaine.
Agenda.
L'orchestre Colonne sera à la Maison de la Radio lundi 2 novembre au studio 104. Sous la direction de Laurent Petit-Girard, cet orchestre légendaire jouera une pièce de Patrick Burgan, Le Lac, Burlesque de Richard Strauss et la symphonie numéro 1 de William Walton. Denis Pascal sera au piano, c'est à 20h. Mercredi 4 novembre, André Manoukian de France Inter, dans son émission Partons en live, reçoit le rappeur Abd al-Malik, la chanteuse Loura et le musicien de jazz Ibrahim Malouf. Ça, c'est à 19h30. Et enfin, pour ceux qui ont encore envie de le voir diriger l'orchestre philharmonique de Radio France, Miu Wung Chung sera à la tête de son ancienne formation le 6 novembre à 20h dans la 6e symphonie dite tragique de Gustav Mahler. C'est à l'auditorium de Radio France. Toutes ces informations et bien d'autres sont sur le site de Fabrication Maison sur francemusique.fr.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors Jean-Yves, ça fait un petit moment que nous sommes sur la Riviera. Nous y restons ce matin.
Oui, et je prends un air sinistre parce que c'est la guerre.
Quelle horreur.
Eh bien oui, figurez-vous, en 1923, Radio Nice s'installe. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais en 1924-25, Radio PTT Marseille, dont nous avons amplement parlé les deux dernières semaines, s'installe. Donc, c'est la guerre des ondes. Il va y avoir donc une radio Riviera privée qui va se créer, englobant Nice, Cannes et Toulon, et qui va devoir faire concurrence à la radio marseillaise. Et ça rigole pas sur la Riviera.
Quelle horreur. Alors, on commence quand même par s'amuser avec un petit tralala.
Avec un petit tralala. Mais attention, c'est de l'amusement incroyable. Ce tralala a passé l'Atlantique. Car Radio Nice est la première à avoir fait une liaison extraordinaire, si je puis dire, jusque l'autre côté de l'Atlantique. Et en Amérique, on a vécu en direct l'ouverture du carnaval de Nice en 1928 pour les 50 ans du carnaval de Nice. Et ça tombe bien, c'est la chanson du 50e anniversaire.
Carnaval que tout s'illumine, embrasser, embrasser, sans faire payer, et pour la fête d'une noce divine, embrasser, embrasser, faut pas vous gêner, si l'on veut se payer sa famille, acheter quantité de folguété, partout on a trigon salutine, un baiser dérobé et petit péché, carnaval et joyeux cire, il a toujours le sourire, son nez vermeil a reçu un conseil, et son menton est un rond bourdon, en ici là son empire, il met les cœurs au délire, c'est épatant malgré ses 50 ans, il est fringant, scocola, tralala. Depuis Magnan jusqu'à Saint-Maurice, embrassez, embrassez, sans vous faire prier, hey, pour le voir défiler, on s'estime. Embrassez, embrassez, c'est pour s'amuser, le gai soleil qui fait nos délices. Sur son front pose son chapeau de rayon et rond, et les fleurs au merveilleux calice. Il les a toutes en tâche des Alpera, carnaval et joyeux cire. Il a toujours le sourire, son nez vermeil a reçu un coup de soleil, et son menton
très étonnant cette fin en plus. Hein. On dirait quelques chèvres.
Oui, on a l'impression que tout le troupeau est...
Tralala. Et Fred Gouin. Fred Gouin, je ne sais pas qui c'est, moi.
C'est un grand chanteur populaire, chanteur même des rues, par moments. Il a été l'époux de Berthe Silva, celle qui a créé Les Roses Blanches, etc. D'habitude, c'est un chanteur qui tire les larmes. Et là, on ne sait pas pourquoi, il a fait...
Ça veut dire qu'il tire les larmes.
Non, pas vraiment.
Alors, nous sommes en vacances, période de vacances. Les plaisirs de la plage, qu'est-ce que c'est ?
Alors, Les plaisirs de la plage, c'est une chanson assez ancienne qui a été chantée par Félix Mayol. Mais quand on s'intéresse à la Riviera, à Toulon, à Cannes, à Nice, on a évidemment ce personnage extravagant qui est au milieu. Alors, Félix Mayol, c'est la vedette, une des premières grandes vedettes du musical, du café-concert, puis du musical parisien. Il chante jusque dans les années 30. Il meurt en 41 pendant la guerre, ce qui est un peu compliqué puisque la France est coupée en deux à cette époque-là. C'est la grande vedette du midi. Marcel Proust et Reynald Hahn l'admiraient, adoraient entendre ses chansons. Et vous allez voir, c'est des chansons qui sont en prise avec l'actualité. Les questions de Liane de Pougy, et enfin, l'actualité d'alors, évidemment, Liane de Pougy et de Sarah Bernard. Donc, certes, le disque date de 1906, mais c'est Mayol. On est sur la Riviera, on ne peut pas y couper.
Les plaisirs de la plage, chanté par Mayol, disque d'Odéon. Mesdames et messieurs, je vais chanter un chef-d'œuvre, célébrant la gloire de Trifouille et Pieuvre. Ces jours épatants où je viens de passer trois mois, rien que d'y penser, j'en tremble encore d'effroi. Je m'étais cette plage, fait une idée charmante, grâce à des affiches de couleurs chatoyantes, avec le nom d'Hugo d'Alési dans le bas, il aurait mieux fait d'y mettre Alési bas. Il n'y a pas un pouce d'ombre sur cette plage toute nue. Heureusement que mademoiselle Jeanne Bloch est venue. Et quand elle s'amenait sur le coup de midi, tout le monde derrière elle se trouvait à l'abri. Pour ceux qui aiment la pêche, c'est le paradis sur terre. Car on trouve de tout dans l'onde hospitalière. Des vieux culs de bouteille, des vieux pots, des tessons. De tout en un mot, excepté des poissons. On annonce parfois un passage de sardines. Tout le monde se jette sur ses filets, ses lignes. On ramène au bout une vieille boîte en fer blanc. Mais malheureusement, il n'y a plus de sardines dedans. Il y a des petits bateaux, une flottille toute neuve, qui s'en vont l'hiver faire la pêche à Terre-Neuve. Mais pendant l'été, il restera du flot. Et quant aux morues, elles sont au casino. Quand la mer est basse, chaque baigneur doit faire plus de 10 kilomètres pour gagner l'onde amère. Encore on est heureux quand on peut la trouver. Il y en a qui sont morts avant d'être arrivés. Sitôt qu'elle remonte sur la plage, on rapplique. On s'installe d'une façon plus ou moins pratique. Et les petits gosses pourront s'y débattre à plaisir. Quand la mer est pleine, c'est que les enfants vont venir. On a eu un jour une panique, la bonne blague. Quelques sauts de long ondulaient sur les vagues. Voilà le serpent de mer, criait-on. Mais plus tard, on s'est aperçu que c'était Sarah Bernard. Mais de la mer en somme, on se fatigue, on s'en lasse. Elle monte, elle descend, en un mot elle passe son temps à descendre, à remonter dans son lit, absolument comme Madame Liane de Pougy. Bref, on la voit la mer de toutes les manières, la mer par devant et la mer par derrière, si bien qu'en regardant cette triste immensité, on reste emmerré pour toute l'éternité.
On voit que ce sont les vacances, Jean-Yves Pat. Je ne sais pas d'où vous sortez toutes ces chansons.
C'est
mais le texte élève l'esprit.
Exactement. Je pense que nos auditeurs de France Musique sont ravis.
Les plaisirs de la plage de Paul Marinier, il fallait l'écouter.
Il fallait l'écouter, ça vaut le jus, comme on dit dans le grand monde.
Félix Mayol de la Scala de Paris quand même.
Ah bah, hé.
Disque d'Odéon, Paris, 1906, comme il le disait au début.
Comme il le disait lui-même.
Un petit moment de publicité.
Alors, un moment de publicité, puisque Radio PTT est une radio nationale, mais les radios privées sont obligées de vivre de la publicité, donc une page de publicité.
Ce berger, quel délice! Berger, 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 l'apéritif parfait, la nuit que vous aimez, c'est vraiment le berger. Midi 7h sonné, c'est l'heure du berger, toujours demandé. Berger, berger, berger.
Oh, on quitte les frères de Marny, je les adore.
C'est bien dommage. Mais enfin voilà, nous avons rempli le contrat pour pouvoir continuer la chaîne de vivre. Nous avons offert un instant de publicité.
Le chassé-croisé berger.
Voilà, qui était une des anisettes les préférées des Marseillais, concurrente du pastis. Et c'est justement une maison marseillaise. Allez,
hop. Et c'est un disque radium, Paris oui. Vers 1946. Je n'ai jamais vu de disque radium.
Alors c'est un petit peu rarissime.
Ah, oui.
Mais bon, j'ai mis 1946 puisque normalement pendant la période de la guerre, ça devient un impératif sans alcool. Et avant, je ne suis pas certain qu'à cause de l'orchestration, je ne suis pas certain que ça date des années 30. Donc, je préfère dépasser la guerre. Mais enfin, l'idée est la même. Hein. C'est une chanson 1900, Tamara Boumdié, et nous voilà partis pour boire un petit apéritif. Bon, mais revenons aux choses sérieuses.
Entre Cannes, Nice et Marseille,
il y a Toulon. Alors, à Toulon, bien entendu, il y a une petite opérette qui a beaucoup de succès et qui se passe sur le port de Toulon, qui s'appelle Trois de la Marine. Et alors, cette fois, on voit qu'on est plus dans le côté radio privé. On a moins d'argent pour s'offrir des grandes vedettes. Et il y a des maisons de disques qui ont parfaitement compris ça et qui ont des orchestres et des chanteurs anonymes. Ils chantent pas plus mal que les autres. Ils sont moins célèbres, ils sont sans doute moins comiques, moins remarquables. Mais en tous les cas, on ne les paye pas puisqu'on ne met pas leur nom. Donc, je vous propose d'écouter à Toulon, de Trois de la Marine, de Scotto et bien entendu Sarville, un disque électrique Parnasse enregistré en 1934, mais qui chante et qui joue Wallo.
Sous leur col bleu, plus bleu que l'azur radieux, avec sur la tête un béret en goguette. Les marins sont beaux dans tous les ports, ils font mille conquêtes, mais ils paraissent plus beaux encore chez eux dans leur décor. Ce sont des as de Tamaris au pont du Las. À Toulon, tous les matelots sont bien les plus beaux, avec leur béret bien sur l'oreille. À Toulon, les petits cols bleus sont plus amoureux auprès de Toinette ou de Mireille. Ils peuvent effeuiller ailleurs leurs cœurs aux braises. Ils reviennent toujours près de leur toulonnaise. Ah vraiment, les joyeux marins ont bien plus d'entrain et plus de pompons quand ils sont à Toulon. Dès qu'ils sont là, dans Toulon, c'est le branle-bas. Du port aux sablettes, les filles sont en fête. Ils débarquent joyeux ces grands fous, en chantant à tue-tête. Qu'on attrape un bon rhume, on s'en fout, pourvu qu'on aime mon coup. C'est le retour, vive le vin, vive l'amour. À Toulon, tous les matelots sont bien les plus beaux, avec leur béret bien sur l'oreille. À Toulon, les petits cols bleus sont plus amoureux auprès de Toinette ou de Mireille. Ils peuvent effeuiller ailleurs leur cœur de braise. Ils reviennent toujours près de leur toulonnaise. Ah vraiment, les joyeux marins ont bien plus d'entrain et plus de pompons quand ils sont à Toulon. Mais un matin, on part, c'est là notre destin. Mireille et Toinette, demain seront solettes. Bientôt Toulon n'est plus qu'un point noir, adieu bord des défaites. Dans le cœur nous n'avons qu'un espoir, c'est vite le revoir. Et sur le pont, chacun chante cette chanson. À Toulon, tous les matelots sont bien les plus beaux, avec leur béret bien sur l'oreille. À Toulon, les petits cols bleus sont plus amoureux auprès de Toinette. Tout de Mireille, ils peuvent effeuiller ailleurs leur cœur de braise. Ils reviennent toujours près de leur toulonnaise. Ah vraiment, les joyeux marins ont bien plus d'entrain et plus de pompons quand ils sont à Toulon.
Trois de la Marine, c'était l'air à Toulon, chanté par un orchestre et des chanteurs anonymes. C'est ce que vous nous expliquez, Jean-Yves. Mais c'est un disque Parnasse électrique qui date de 1934.
Voilà, ainsi s'achève l'histoire de Radio Rivera. Non, enfin, c'est pas tout à fait vrai, c'est une radio qui va concurrencer pendant longtemps Marseille, mais évidemment la radio PTT va l'emporter. Il faudra attendre les années 2004 pour que renaisse une radio privée, enfin une radio libre comme on dit, dans la région de Nice, si mes informations sont bonnes.
Nous les vérifierons.
J'espère.
La semaine prochaine, on part dans le Nord.
Oui, parce que là, ça y est, le Sud, on en a assez. On y retournera peut-être après faire un tour à Toulouse. Mais il n'y a pas de raison de ne pas aller dans le Nord. Il y a eu aussi une très belle radio très importante dans la région lilloise et nous allons la découvrir.
À la semaine prochaine, alors Jean-Yves.
Avec plaisir.
Et voici notre rubrique Parlez-moi de musique, dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé une auditrice du Havre, qui ne s'est pas nommée, mais qui se reconnaîtra peut-être et lèvera le voile du mystère. Pour moi, la musique, c'est l'avenir, c'est l'histoire de rencontres et d'amour, c'est l'histoire de confiance et de passion, c'est le temps coloré. Comme un corps céleste, je ne sais pas par quel bout commencer pour parler de la musique. Dois-je commencer par mon professeur de piano, son petit chien joyeux qui m'accueillait ? Je découvrais en même temps au disque la valse du petit chien de Chopin, le poisson rouge qui brillait dans la pénombre, le visage paternel et fraternel à la fois, de Beethoven, sculpture posée au-dessus du pupitre, ou bien par mes professeurs de chorale, leur patience, leur sourire, le bonheur rare de chanter qu'elles nous offraient dans la semaine et dans l'année, des moments privilégiés dans la grisaille. Mon instituteur qui allumait France Musique pour nous faire chanter, un moment magique. Roberto Benzi, le Palais des Sports de Bordeaux, empli de musique. Poulenc, Puccini, que notre professeur de chorale nous a fait chanter au conservatoire. Brahms et son requiem allemand, chanté en anglais sous la direction de Mr. Palmer. Messiaen, découvert à Oxford, au Sheldonian Theatre, où les canyons côtoyaient les étoiles. Mes professeurs de chant, soprano coloratour, soprano dramatique, qui m'ont appris la technique et l'amour du chant. Les dissonances, orchestre sans chef, avec plein de chefs partout, dans tous les pupitres. Anne-Charlotte, François-Xavier, Alex, Denissa, qui me charme presque tous les jours. François, mon professeur d'alto. Celles et ceux avec qui je chanterai, demain et toujours.
Thank you.
Pour illustrer le souvenir musical de notre auditrice inconnue, nous avons écouté le Record d'arrêt du Requiem de Mozart dans la dernière version enregistrée du Concertus Musicus de Vienne du chœur Arnold Schönberg, dirigé par Sir John Eliot Gardiner. Alors vous le savez, cette rubrique se nourrit de vos souvenirs. N'hésitez pas à m'écrire que je puisse raconter l'un de vos moments musicaux à cette antenne. Question de cœur. Sophie Janin, bonjour.
Bonjour Dominique.
Alors comme chaque samedi matin pour Fabrication Maison, vous répondez à certaines questions que peuvent se poser des chefs de chœur, des chanteurs. Et ce matin, je me demandais, est-ce que c'est important de chanter dans sa voix ? Vous l'évoquiez la semaine dernière, on peut parfois ne pas chanter dans la bonne tessiture. Et alors en ce cas, comment est-ce qu'on fait pour trouver cette tessiture ?
Alors... Et ça dépend aussi des âges, parce que par exemple à la maîtrise, on fait beaucoup de chants à l'unisson. Et bien évidemment après, on a des timbres qui se développent, des caractères qui se développent différemment, mais l'étendue reste quand même plus ou moins la même. Donc après, on essaye de placer les enfants où ils ont plus de facilité. Pour trouver sa voix, quand on n'est pas un chanteur confirmé, il faut voir où on est à l'aise, mais on développe cette aisance-là. Par exemple, vous entendez une soprano chanter l'air de la Reine de la Nuit, il est peu probable qu'elle parle dans cette tessiture-là. Donc, pour vous dire qu'on développe une aisance dans sa tessiture chantée. Et, je pense que la meilleure chose à faire, c'est que le chef de chœur écoute les chanteurs et, sur des exercices, sur des vocalises et qu'il les place en fonction de là où il les trouve les plus à l'aise, les plus confortables, et qu'après, on fait attention de parfois aussi bouger, de regarder, de réviser, de remettre en question où on a placé le chanteur, car la voix continue à se développer pendant toute sa vie.
Oui, donc on peut changer de tessiture.
Alors, il y en a souvent qui changent de tessiture, et même chez les professionnels.
Est-ce que c'est dangereux, Sophie Janin, de ne pas chanter dans sa tessiture ? Est-ce qu'on peut s'abîmer la voix ?
On peut s'abîmer sa voix, absolument, et on le voit surtout quand, dans les deux sens finalement, mais quand on n'est pas confortable, le corps et le cerveau cherchent des solutions. Et parfois ces solutions-là, moi je l'ai souvent vu avec des jeunes gens par exemple qui veulent chanter sur les CD qu'ils écoutent. Ils chantent souvent dans des tessitures très graves où ils tassent leur voix dans une tessiture avec une donc trop grave pour eux et avec une voix de poitrine très prononcée. Cela peut par exemple provoquer ensuite une cassure où les notes aiguës et tout le registre aigu va devenir compliqué. Donc c'est au chef de chœur de veiller à ce que l'ensemble de ses chanteurs projette sa voix de façon saine et dans une aisance.
De Charles Hubert Parry, nous écoutions le psaume 22, I Was Glad, chanté par le chœur de Radio France avec Yves Castagnet à l'orgue, tous dirigés par Sophie Janin, que nous retrouverons la semaine prochaine. Il y a des places de concert à gagner pour ceux d'entre vous qui seront parisiens le 5 novembre prochain. L'Orchestre National de France sera à l'auditorium de la Maison de la Radio pour un concert mêlant Britten et Tchaïkovski. De Benjamin Britten, vous pourrez entendre sa Symphonia de Requiem et son Concerto pour violon, donné en soliste par le Canadien James Ennis, qualifié par la presse de Yasha Eifetz de ce siècle. De Tchaïkovski, sa symphonie numéro 1 ira comme un gant à l'Orchestre National de France, placé sous la conduite d'Edward Gartner. Pour gagner des places pour ce concert du 5 novembre à 20h, il vous suffit de vous inscrire sur le site de France Musique à la page de l'émission, où vous trouverez également toutes les informations et les références que vous souhaitez. C'est le moment de se quitter. Merci à Pauline Boisaubert, à Philippe Petit et à Dimitri Scapolan. À très vite!